Blackcast
présent.
Un garçon en mini jupe. Oui, un gars en mini jupe.
Mais non.
Les Blackcast présentent une émission féministe. Rien à signaler.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Dio 89.5 FM dans l'émission Rien à signaler, une émission féministe qui aura lieu tous les 15 jours. Parce qu'une émission féministe,
c'est pas du luxe.
Aujourd'hui, pour cette première émission, on a choisi de partager avec vous des textes, des idées, des musiques sur les thèmes des questions de genre, de l'avortement, des liens entre sexisme et racisme. Pour nous, faire cette émission, c'est aussi prendre la parole et nous vous proposerons d'écouter un texte d'Audre Lorde qui parle de transformer le silence en paroles et en actes, ainsi que des poèmes de Marina Tsvetaeva.
Cette émission vous est présentée par les Blatlocas, et si elle vous donne envie de nous contacter, on aura très bientôt un email. Et maintenant, on va s'écouter un extrait du livre King Kong Theory de Virginie Despentes.
Après plusieurs années de bonnes, loyales et sincères investigations, j'en ai quand même déduit que la féminité, c'est la putasserie, l'art de la servilité. On peut appeler ça séduction et en faire un machin glamour, ça n'est un sport de haut niveau que dans très peu de cas.
Massivement, c'est juste prendre l'habitude de se comporter en inférieur.
Entrer dans une pièce, regarder s'il y a des hommes, vouloir leur plaire.
Ne pas parler trop fort, ne pas s'exprimer soit en ton catégorique.
Ne pas s'asseoir en écartant les jambes pour être bien assise. Ne pas s'exprimer sur un ton autoritaire.
Ne pas parler d'argent, ne pas vouloir prendre le pouvoir, ne pas vouloir occuper un poste d'autorité.
Ne pas chercher le prestige, ne pas rire trop fort, ne pas être soi-même trop marrante.
Plaire aux hommes est un art compliqué qui demande qu'on gomme tout ce qui relève du domaine de la puissance.
Pendant ce temps, les hommes, en tout cas ceux de mon âge et plus, n'ont pas de corps, pas d'âge, pas de corpulence.
N'importe quel connard rougi à l'alcool, chauve, à gros bide et look pourri, pourra se permettre des réflexions sur le physique des filles. Des réflexions désagréables s'il ne les trouve pas assez pimpantes ou des remarques dégueulasses s'il est mécontent de ne pas pouvoir les sauter.
Ce sont les avantages de son sexe. La chaudasserie la plus pathétique, les hommes veulent nous la refourguer comme sympathique et pulsionnelle. Mais c'est rare d'être Bukowski, la plupart du temps c'est juste des tocards lambda. Comme si moi, parce que j'ai un vagin, je me croyais bonne comme Greta Garbo.
Être accomplexé, voilà qui est féminin. Effacer, bien écouter, n'est pas trop briller intellectuellement.
Juste assez cultivé pour comprendre ce qu'un bellâtre a à raconter. Bavarder est féminin.
Tout ce qui ne laisse pas de traces, ce qui est domestique, se refait tous les jours, ne porte pas de nom.
Pas les grands discours, pas les grands livres, pas les grandes choses. Les petites choses, mignonnes, féminines.
Mais boire, c'est viril. Avoir des potes, c'est viril.
Faire le pitre, viril. Gagner plein de thunes, viril.
Avoir une grosse voiture, c'est viril. Se tenir n'importe comment, c'est viril.
Ricaner en fumant des joints, viril. Avoir l'esprit de compétition, viril.
Être agressif, viril. Vouloir baisser avec plein monde, viril.
Répondre avec brutalité à quelque chose qui vous menace, viril.
Ne pas prendre le temps de s'arranger le matin, viril.
Porter des fringues parce qu'elles sont pratiques, viril.
Tout ce qui est marrant à faire est viril. Tout ce qui permet de survivre est viril. Tout ce qui fait gagner du terrain est viril.
Ça n'a pas tellement changé en 40 ans. La seule avancée notoire, c'est que maintenant, on peut les entretenir.
Alors, on vient de s'écouter un extrait du livre de Virginie Despentes, King Kong Theory. Virginie Despentes, c'est aussi l'auteur de Baise-moi, qui est sorti en film, et elle a aussi écrit pas mal d'autres romans. Alors là, du coup, on avait envie de vous parler de construction sociale de genre, parce qu'il nous semble que ce que dit Virginie Despentes sur être viril, par exemple, c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul, qu'on choisit pas forcément, mais plutôt qui vient de nos constructions sociales de genre. Alors je vous dis ça, mais je veux bien d'abord préciser ce qu'est pour moi la construction sociale. Peut-être simplement en regardant du côté de nos apprentissages, formatages, c'est voir qu'en tant qu'humain, on fonctionne en groupe, en société, et qu'au même titre qu'on apprend le langage par imitation, par exemple, on grandit en incorporant tout un tas de règles, de schémas de pensée. Et tout ça s'appuie sur la culture, sur la contrainte qu'on nous impose, ou bien sur ce qui peut aussi nous permettre de développer certaines activités ou capacités. Et là, il y a le genre, qui est la catégorie dans laquelle on nous range en fonction de notre sexe, et dans nos sociétés, on a deux versions, homme ou femme, auxquelles on reconnaît et définit des qualités, des capacités. Si le genre est un processus de création collective, par tout un système de normes, de contraintes et de morale, ce n'est donc pas naturel, mais bien le fruit d'une construction sociale du genre, qui amène des manières de penser, d'agir, et c'est ça qu'on a envie de regarder.
Donc pour expliquer un petit peu le genre, je pourrais dire qu'il y a le sexe biologique, et le genre c'est ce qui est construit socialement à partir du sexe biologique. C'est un petit peu ce que dit Simone de Beauvoir quand elle dit « on n'est pas femme, on le devient ». Le genre, c'est le comportement, les façons de penser qui sont associées au féminin ou au masculin. Et comme tu viens de le dire, le concept de genre, il est extrêmement important pour nous parce qu'il permet de montrer que des attitudes dites féminines ou masculines n'ont rien de biologique ou naturel, mais sont le fruit, comme tu le disais, de construction sociale. Donc c'est ce dont parle Virginie Despentes dans le texte qu'on vient d'écouter. Et cette construction de l'identité féminine ou masculine, elle commence super tôt. Avant même qu'on soit né, en fait, nos parents, nos familles, les proches projettent déjà beaucoup de choses sur l'individu à naître en fonction de si on attend un garçon ou une fille, et ça commence encore plus tôt depuis qu'il est possible de déterminer le sexe du fœtus. De manière super générale, on va dire qu'on attendra d'une petite fille qu'elle soit douce, calme, jolie, et plus tard on va la valoriser quand elle prendra soin des autres, quand elle saura écouter, quand elle saura se sacrifier, s'effacer. Pendant ce temps, les garçons, ils seront plus valorisés quand ils feront du bruit, quand ils prendront de la place, quand ils feront des activités physiques ou quand ils sauront s'imposer. C'est pas une construction super drôle non plus, cette proposition-là, ce qu'on propose aux garçons, mais quand même, ça me paraît un petit peu plus rigolo. Donc ça arrive que des comportements soient clairement interdits, prohibés, mais le plus souvent, ce processus de construction des identités est beaucoup plus subtil. Ça passe davantage par la valorisation, la reconnaissance, l'encouragement quand on se conforme aux normes qui correspondent à notre sexe. Et cette reconnaissance qu'on va avoir, elle correspond à un besoin fondamental de l'humain. Au contraire, ne pas se soumettre aux normes, ça va entraîner une répression qui peut aller de l'absence de reconnaissance à de la violence physique ou psychologique.
Ouais. Parce qu'on a, aussi l'impression que ces modèles, qui sont par exemple diffusés dans les médias ou à l'école ou par les religions, ils nous matraquent d'un idéal d'homme et de femme et que la finalité, l'objectif, serait de trouver l'amour et de se reproduire et que c'est comme ça qu'on sera normaux ou heureux. Alors, bof. Et là, après, on n'est pas en train de vouloir condamner, de juger les qualités, les capacités développées par chacun, chacune, même si je trouve que ce système il est pourri et que c'est un système de domination. Mais on voudrait plutôt interroger et inviter à regarder des fonctionnements, des schémas qui peuvent nous enfermer, nous aliéner, nous opprimer, oppresser et nous limiter.
Donc là, j'avais envie de donner un exemple. C'est un exemple tout bête, c'est que, par exemple, j'ai mis vachement de temps avant d'utiliser une perceuse. J'avais au moins 20 ou 22 ans quand j'ai utilisé pour la première fois une perceuse. Et je trouve ça représentatif, en fait, de comment on peut se limiter. Donc, à chaque fois que j'avais besoin de faire un trou dans un mur, et ben, j'utilisais d'autres stratégies que prendre une perceuse pour faire ce trou. Par exemple, demander à des gens et pour ça être gentille. Et puis, un jour, j'ai eu une perceuse entre les mains et j'ai réalisé à quel point c'était super facile. Et ça a été un peu comme s'il y avait un mur invisible qui tombait à ce moment-là, de me rendre compte que c'était possible, que j'avais la capacité de faire ça, et que ça m'autorisait, par exemple, à ne plus être gentille. Voilà, c'est un petit exemple. Et depuis, il y a eu plein d'autres murs invisibles qui sont tombés, et il y a encore plein de murs invisibles à faire tomber. Donc je sais que, je crois savoir qu'il y a des filles, des femmes pour qui le système dans lequel on est, il est OK, ça leur convient. Moi, ça me convient pas. J'ai remarqué à quel point j'ai appris à être gentille, à écouter, à faire que les autres soient bien, même si c'est au détriment de mon bien-être. Et je rejette pas du tout ces qualités, par exemple d'écoute ou de gentillesse, mais j'ai envie d'avoir plus le choix. Et j'ai envie aussi que des hommes puissent s'approprier ces qualités aussi, par exemple ces qualités d'écoute, qu'on puisse se partager ces tâches-là aussi, d'écoute et de prendre en soin les autres. Et je crois que j'ai aussi beaucoup appris à accorder une valeur au regard et au jugement des hommes. Et ça me convient pas. Du coup, petit à petit, j'essaye de développer des nouvelles façons d'être, de faire, en testant des choses très différentes. Du coup, parfois, c'est génial et parfois, c'est super déprimant. Il y a des jours où ça marche et il y a beaucoup de jours où juste ça marche pas. Voilà, en tout cas, dans cette démarche, je ressens très fort le besoin d'être soutenue, de pas être seule, parce que ces explorations-là, par exemple, ça peut passer par des explorations sur l'habillement pour se réapproprier ce truc de genre. Et dans ce cas-là, par exemple, je vais avoir besoin d'être entourée de gens pour qui ça va pas être un problème si je porte une cravate ou une mini-jupe, qui vont pas me faire des réflexions toute la journée. Cet exemple du vêtement, il peut paraître futile. Il y a plein d'autres façons, évidemment, d'explorer ces trucs de genre, mais j'aime bien quand même parce que ça me paraît une manière intéressante de jouer avec le genre.
Ouais, jouer avec le genre, moi j'aime bien. Ça peut être super chouette, mais des fois aussi, c'est pas suffisant. En fait, on peut pas forcément effacer notre histoire et on peut pas faire disparaître comme ça, en un claquement de doigts. Les privilèges et les postures qu'on peut avoir dans notre société. Je crois que pour moi, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir trouver et de créer des espaces et trouver des personnes avec qui on peut se permettre d'interroger, de partager tout ça et de pouvoir en faire quelque chose.
Mmh. Ouais, je suis d'accord que ce truc de construction sociale du genre, c'est pas du tout quelque chose de léger. Et de manière... clairement, la société reste hostile et répressive envers tout ce qui remet en cause les normes hétéro-patriarcales. Et voilà, et les choses telles qu'elles sont, elles arrangent quand même plein de gens qui n'ont pas trop envie que ça change. Mais je pense qu'il y a des brèches.
Ouais. Et alors, comme on n'est pas les premières à vouloir parler de tout ça, et que c'est pas fini, on va s'écouter un morceau de Michel Bernard qui s'appelle Les Petites Filles, qui doit dater de 70, et qui nous parle aussi de ces histoires de formatage et du genre.
Les petites filles bien élevées ont appris à ne pas déranger. Souriantes, polies, bien coiffées, elles serrent les genoux sur le canapé. Leurs petites mains sont très agiles, fines comme l'aiguille et le fil. Leur chambre est un jardin japonais, rien leur fait peur, tout les fait pleurer. La vie en rose et en ruban dans l'ombre bleue des mamans. Dans ta boîte de coton bien à l'abri des émotions. Tes colères sont des caprices et ta violence artifice. Et si tu laisses tout traîner, tu es un garçon manqué. Les fleurs, les poupées leur font plaisir. Le moindre regard les fait rougir. Comme les princesses de leur roman, elles rêvent en secret d'un prince charmant. Elles se voient actrices, hôtesses de l'air. Elles seront sages-femmes ou secrétaires. Elles ont déjà l'instinct maternel. Elles mettent la table et font la vaisselle. La vie en rose en tablier dans l'ombre bleue de l'évier. Dans ta boîte de savon bien à l'abri des tentations. On t'offre des rêves à bas prix comme autant de panoplies. Tu les trouves trop étriqués, tu es un garçon manqué. Les petits garçons sont plus malins. D'ailleurs, le monde leur appartient. Ils aiment courir un peu partout et rentrent le soir des croûtes aux genoux. Ils trouvent les filles un peu bécasses et se moquent d'elles quand elles passent. Ils se battent et disent des gros mots et ne pleurent jamais comme leurs héros. En rose, en bleu, petits enfants qui deviendraient dans 20 ans. hommes et femmes si bien dressés et savamment polissés. Les rôles qu'on vous a appris entre la peur et le mépris. Les jours et vous sans rien dire pour le meilleur et pour le pire. La vie en rose et en souci dans l'ombre bleue du crédit. Dans vos boîtes de béton, à l'abri des révolutions.
La neige, 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 plus blanche que linge, femme, lige, du sort, blanche neige, sortilège, que suis-je et où vais-je, sortirai-je vive de cette terre, neuve, neige, plus blanche que page, neuve neige, plus blanche que rage, slave, rafale, rafale, aux mille pétales, aux mille coupoles, rafale la folle, toi, une, toi, foule, toi, mille, toi, râle, rafale la soule, rafale la pâle, débride, dételle, désole, détale, à grands coups de pelle, à grands coups de balle, cavale de flamme, fatale mongole, rafale la fale, femme, rafale, rafole.
Alors, on vient de s'écouter un poème de Marina Tsvetaeva. Et maintenant, on va entendre l'enregistrement d'un texte qui s'appelle « Transformer le silence en parole et en acte », écrit par Audre Lorde. Tout d'abord, un petit aperçu de sa vie pour vous dire un peu plus qui elle est. Alors, Audre Lorde est américaine, elle est née à Harlem en 1934. Elle suit une carrière universitaire pour devenir bibliothécaire et enseigner l'anglais. Elle participe activement à de nombreuses conférences et fait divers petits boulots. Elle écrit des essais et c'est une poète.
Et c'est d'ailleurs en tant que lesbienne noire qu'elle s'est beaucoup investie dans les luttes contre le racisme, dans les luttes féministes, dans les luttes homosexuelles tout au long de sa vie. Je résiste pas à l'envie de la citer. Je continuerai à combattre toutes les formes d'oppression. Racisme, sexisme, homophobie. Personne n'est libre tant que d'autres sont opprimés. On a aussi trouvé un documentaire sur elle qui s'appelle « The Age of Each Other's Battle », réalisé par Jennifer Abbott en 2002. Et d'ailleurs, si vous avez des copies de ce documentaire, notamment traduites, ça nous intéresserait. Sa bibliographie est très fournie. Des recueils de poèmes, non traduits en français, des essais, dont trois sont disponibles en langue française aux éditions Mama Mélis, et notamment Sister Outsider, dont est extrait le texte qu'on va écouter. On peut aussi le trouver dans Black Feminism, anthologie du féminisme afro-américain de 1975 à 2000, aux éditions L'Harmattan. Audre Lorde, elle a aussi lutté pendant 15 ans contre une maladie, un cancer dont elle meurt en 92. Et justement, la confrontation avec l'éventualité d'une mort proche au tout début de sa maladie est un ressort à l'écriture du texte qu'on va écouter et qu'elle rend public pour la première fois en 1977. Ce texte nous a fait écho parce qu'il s'adresse plus spécifiquement aux femmes qui ont beaucoup moins accès à la parole publique de par des formatages, des constructions, des peurs. Il nous a plu, car il invite à rompre tous les silences et encourage à faire exister nos visions, nos réalités, nos mots. Écoutons donc maintenant l'extrait du texte d'Audre Lorde, « Transformer le silence en parler en acte », qu'on a enregistré sur une musique d'Eliane Brown, chanteuse, écrivaine, activiste, membre du parti des Black Panthers, et la chanson s'appelle Assassination.
You know I heard the people say, what will you give in your way? I saw them turn.
Je suis de plus en plus convaincue que ce qui est essentiel pour moi doit être mis en mots, énoncé et partagé, et ce même au risque que ce soit éreinté par la critique et incompris. Parce que parler m'est bénéfique, d'abord et avant tout. Je suis ici, debout, comme poète noire, lesbienne, et tout cela prend un sens encore plus fort, parce que je suis toujours en vie, alors que j'ai bien failli ne plus l'être.
Say,
Ainsi confrontée de force à l'éventualité de ma mort, à ce que je désirais et voulais de ma vie, aussi courte soit-elle, priorité et omission me sont apparues violemment, sous une lumière implacable, et ce que j'ai le plus regretté, ce sont mes silences. De quoi avais-je donc eu si peur? Dans mon esprit, poser des questions ou parler signifiait souffrance ou mort. Pourtant, nous souffrons toutes, de bien des façons, tout le temps, et la souffrance se transforme ou s'achève. La mort, en revanche, c'est le silence final. Et elle pourrait ne pas tarder, à présent. Peu importe si je n'ai pas dit ce qu'il fallait, si je me suis trahi par toutes sortes de petits silences, remettant ma parole à plus tard, ou comptant sur une autre pour parler à ma place. J'ai alors commencé à discerner en moi une source de puissance qui vient de cette connaissance. Bien qu'il soit préférable de ne pas avoir peur, savoir relativiser la peur me donne une très grande force. J'allais mourir tôt ou tard, que j'ai pris la parole ou non. Mes silences ne m'avaient pas protégé, votre silence ne vous protégera pas non plus. Mais à chaque vraie parole exprimée, à chacune de mes tentatives pour dire ces vérités que je ne cesse de poursuivre, je suis entrée en contact avec d'autres femmes. Et, ensemble, nous avons recherché des paroles, s'accordant au monde auquel nous croyons toutes, construisant un pont entre nos différences. Et ce sont l'intérêt et le soutien de toutes ces femmes qui m'ont donné de la force et permis de questionner les fondements mêmes de ma vie. Les femmes qui m'ont soutenue pendant cette période étaient noires et blanches, vieilles et jeunes, lesbiennes, bisexuelles et hétérosexuelles. Et nous avons toutes pris part à cette guerre contre les tyrannies du silence. Je ne suis pas seulement une victime, je suis aussi une guerrière.
I saw them turn, stop, and listen to the people cry and say, just a life is all I got. What did they do? What did they say?
Quels sont les mots qui nous manquent encore? Qu'avez-vous besoin de dire? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtres? Jusqu'à vous en rendre malade et à en crever, en silence encore. Peut-être que pour certaines d'entre vous, ici, aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs. Parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi, une poète guerrière noire qui fait son boulot, venue vous demander, et vous, est-ce que vous faites le vôtre? Et bien sûr, j'ai peur. Car transformer le silence en parole et en action est un acte de révélation de soi. Et cet acte semble toujours plein de dangers. Quand je lui ai parlé de notre sujet de discussion, de mes difficultés, ma fille m'a dit « Raconte-leur qu'on n'est jamais une personne à part entière si on reste silencieuse, parce qu'il y a toujours cette petite chose en nous qui veut prendre la parole. Et si on continue à l'ignorer, cette petite chose devient de plus en plus fébrile, de plus en plus en colère. Et si on ne prend pas la parole, un jour, cette petite chose finira par exploser et nous mettre son poing dans la figure. » La raison du silence, ce sont nos propres peurs. Peurs derrière lesquelles chacune d'entre nous se cache. Peur du mépris, de la censure, d'un jugement quelconque, ou encore peur d'être repérée. Peur du défi, de l'anéantissement. Mais par-dessus tout, je crois, nous craignons la visibilité. Cette visibilité sans laquelle nous ne pouvons pas vivre pleinement. Dans ce pays où la différence raciale, quand elle n'est pas dite, crée une distorsion permanente du regard. Les femmes noires ont été d'une part toujours extrêmement visibles, d'autre part rendues invisibles par l'effet de dépersonnalisation inhérent au racisme. Même au sein du mouvement des femmes, nous avons dû, et devons encore, nous battre pour cette visibilité de notre négritude, ce qui nous rend d'ailleurs extrêmement vulnérables. Car pour survivre dans la bouche de ce dragon appelé Amérique, nous avons dû apprendre cette première et vitale leçon. Nous n'étions pas censés survivre. Pas en tant qu'être humain. Et la plupart d'entre vous non plus, que vous soyez noir ou non. Or, cette visibilité qui nous rend tellement vulnérables est la source de notre plus grande force. Car le système essaiera de vous réduire en poussière de toute façon, que vous parliez ou non. Of centuries, people cried out and said, please, please, we want freedom, liberation, and just some help in this civilization. And though I heard the people say, nous pouvons nous asseoir dans notre coin, muettes comme des tombes, pendant qu'on nous massacre, nous et nos sœurs, pendant qu'on défigure et qu'on détruit nos enfants, qu'on empoisonne notre terre. Nous pouvons nous terrer dans nos abris, muettes comme des carpes, mais nous n'en aurons pas moins peur. What did they say to justify speaking this way? They just fought and often cried. Si nous sommes toutes là aujourd'hui, c'est parce que, d'une façon ou d'une autre, nous partageons un même engagement envers le langage et le pouvoir des mots. C'est parce que nous sommes décidés à régénérer cette langue instrumentalisée contre nous. Pour transformer le silence en paroles et en actes, il est fondamental que chacune de nous établisse et analyse sa place dans cette transformation et reconnaisse le rôle vital qu'elle joue. Pour celles qui écrivent, il est nécessaire d'examiner minutieusement non seulement la véracité de ce que nous disons, mais encore la véracité du langage que nous utilisons. Pour d'autres, il s'agira de partager et aussi de transmettre ces paroles qui font sens pour nous. Mais plus que tout, il est primordial pour nous toutes de montrer l'exemple en vivant et en nommant ces vérités auxquelles nous croyons et que nous détenons au-delà de notre entendement. C'est seulement ainsi que nous pourrons survivre, en prenant part à ce processus vital, créatif et continu, et qui s'appelle grandir. Et quand les paroles des femmes crient pour être entendues, nous devons chacune prendre la responsabilité de chercher ces paroles, de les lire, de les partager et d'en saisir la pertinence pour nos vies. Nous ne devons pas nous cacher derrière les simulacres de division qu'on nous a imposés et que nous faisons si souvent nôtres. Du genre, je ne peux vraiment pas enseigner la littérature des femmes noires, leur expérience est si éloignée de la mienne. Pourtant, depuis combien d'années enseignez-vous Platon, Shakespeare et Proust? Ou bien, c'est une femme blanche, que peut-elle vraiment avoir à me dire? Ou, c'est une lesbienne, que va en penser mon mari ou mon patron? Ou encore, cette femme parle de ses fils et je n'ai pas d'enfant. Et toutes les multiples façons que nous avons de nous priver de nous-mêmes et des autres. Nous pouvons apprendre à travailler, à parler, malgré la peur, de la même façon que nous avons appris à travailler, à parler, malgré la fatigue. Car nous avons été socialisés pour respecter la peur bien plus que nos propres besoins de parole et de définition. Et à force d'attendre en silence le moment privilégié où la peur ne serait plus, le poids de ce silence finira par nous écraser. Le fait que nous soyons ici ensemble et que je prononce ces paroles est une tentative de briser ce silence et de construire des ponts entre nos différences. Car ce ne sont pas nos différences qui nous immobilisent, c'est le silence. Et tant de silences doivent être brisés.
Il en tomba combien dans cet abîme, béant dans le lointain, et je disparaîtrai un jour sans rime, du globe c'est certain. Se figera tout ce qui fut, qui chante et lutte, et brille et veut, et le vert de mes yeux, et ma voix tendre, et l'or de mes cheveux. Et la vie sera là, son pain, son sel, et l'oubli des journées. Et tout sera comme si sous ce ciel, je n'avais pas été. Moi qui changeais comme un enfant sa mine, méchante qu'un moment, qui aimait l'heure où les bûches s'animent quand la cendre les prend, et le violoncelle, et les cavalcades, et le clocher sonnant. Moi, tellement vivante et véritable, sur le sol caressant. À tous, qu'importe, en rien je ne mesure. Vous, bien et étranger, je vous demande une confiance sûre, je vous prie de m'aimer. Et jour et nuit, voix orale ou écrite, pour mes oui, non cinglants, du fait que si souvent, je suis trop triste, que je n'ai que 20 ans. Du fait de mon pardon inévitable, des offenses passées, pour toute ma tendresse incontenable et mon trop fier aspect. Et la vitesse folle des temps forts, pour mon jeu, pour mon vrai. Écoutez-moi, il faut m'aimer encore, du fait que je mourrai.
Après le texte de Delors, on avait envie de vous parler d'un aspect qui est souvent invisible du racisme. Souvent, en fait, on aperçoit le racisme uniquement dans sa partie active, c'est-à-dire les comportements racistes que d'autres ou que nous-mêmes produisons. Du coup, quand on veut combattre le racisme, on ne pense jamais à son côté passif, c'est-à-dire à tout l'ensemble des privilèges desquels on jouit du fait d'être blanc-blanche. Pour blanc-blanche, je ne me réfère pas seulement aux couleurs de peau, sinon au fait d'être aperçu comme représentant de la culture dominante, européenne et impérialiste. Je peux vous donner plein d'exemples de ces privilèges quotidiens. Avoir accès à un logement ou à un travail facilement, ou sans qu'on nous demande qu'est-ce qu'on vient à faire en France ou c'est quoi nos origines. Ne pas se faire exclure de l'école parce qu'on porte le foulard. Ne pas subir des contrôles policiers ou faciès dans la rue. Quand on se trouve confronté à la justice, ne pas subir les peines les plus lourdes, lesquelles sont systématiquement appliquées à l'égard des personnes ciblées du racisme, comme aussi aux personnes les plus pauvres ou sans travail. Et la liste est très longue. Le fait de parler du racisme n'a pas comme but de culpabiliser personne. La culpabilité n'a jamais fait rien changer ni a libéré personne. Mais par contre, on peut déjà se rendre conscient de comment le racisme fait partie de ce qu'on vit ou de ce qu'on ne vit pas, et à imaginer des formes d'action qui nous engagent à partager ou à combattre ces privilèges inégalitaires. Dans la suite, on va vous lire un extrait d'une brochure écrite par une personne blanche qui réfléchit à ces privilèges et au lien entre racisme et sexisme. Cette brochure s'appelle « Privilège masculin, privilège blanc ». Elle est écrite par Peggy McIntosh et vous pouvez la trouver sur Internet ou site www.mrax.bb. Je vous dis exactement www.mrax.be. Voici l'extrait.
J'ai souvent remarqué le refus des hommes de reconnaître qu'ils étaient surprivilégiés, même s'ils pouvaient reconnaître que les femmes étaient désavantagées. Il leur arrive de dire qu'ils veulent contribuer au statut des femmes dans la société, mais ils n'arrivent pas ou ne veulent pas soutenir l'idée de diminuer le statut des hommes. Un refus qui revient à un tabou entoure le sujet des avantages que les hommes gagnent par les désavantages des femmes. Ce refus protège les privilèges masculins d'être pleinement reconnus, diminués ou supprimés. En pensant à la non-reconnaissance du privilège masculin comme phénomène, j'ai réalisé, puisque les hiérarchies dans notre société sont étroitement liées, qu'il y avait très probablement un phénomène de privilège blanc qui était nié et protégé pareillement. Comme personne blanche, j'ai réalisé qu'on m'avait enseigné que le racisme était quelque chose qui désavantageait d'autres, mais on m'avait appris à ne pas voir un de ses aspects corollaires, le privilège blanc, qui me procure un avantage. Je crois qu'on enseigne avec soin aux blancs et aux blanches à ne pas reconnaître le privilège blanc, tout comme on enseigne aux hommes à ne pas reconnaître le privilège masculin. Ainsi, j'ai commencé de manière spontanée à me demander ce que c'est que d'avoir un privilège blanc. J'en suis venu à voir le privilège blanc comme un emballage invisible de biens non mérités sur lesquels je peux compter en profitant chaque jour, mais au sujet desquels j'étais supposée rester inconsciente. Le privilège blanc est comme un havresac invisible et sans poids de fournitures spéciales, de cartes, de passeports, de carnets d'adresses, de visas, d'habits, d'outils et de chèques en blanc.
She
Vous êtes toujours sur Radio Audio 89.5 FM dans l'émission Rien à signaler. Quelques infos maintenant concernant le planning familial. Le planning familial, en ce début d'année 2009, a reçu l'annonce de coupures de subventions de l'État à hauteur d'environ 40%, ce qui menaçait leur activité, voire annonçait la fermeture de certains plannings. Mais sous la pression, l'État s'est rétracté et je vous lis le petit extrait de communiqué de presse de mi-mars. Donc c'est daté du 16 novembre 2009. Ensemble, nous avons obtenu que l'État rétablisse son engagement et sa responsabilité nationale pour l'information, l'éducation à la sexualité pour toutes et tous. Merci aux 140 000 signataires de la pétition en ligne et sur papier dont la présence à nos côtés a été déterminante. 13 mars 2009, l'État s'engage à rétablir la ligne du Conseil conjugal et familial à hauteur du budget réalisé en 2008, soit 2,6 millions d'euros pour 2009, 2010 et 2011, et ce pour l'ensemble des associations intervenant dans l'ensemble des établissements d'information et de conseil conjugal et familial. Alors, le planning familial, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui s'appelle Mouvement familial pour le planning français. Non, Mouvement français pour le planning familial, pardon. Qui agit auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître les droits des femmes à la maîtrise de leur fécondité, contraception, avortement, et lutte pour l'élimination de la violence sexiste. Ça, c'est un peu la vitrine officielle. Et le planning familial, c'est aussi un lieu d'info et d'accès à la contraception et à l'avortement. Elles font aussi des interventions en milieu scolaire sur les questions de sexualité et de violence. C'est un lieu d'accueil des femmes victimes de violence. Elle réalise aussi des formations auprès de divers professionnels du monde de l'éducation, du monde social, médical et même de la police, pour faire face aux violences contre les femmes, inceste, viol, agression sexuelle, mariage forcé, violence dans le couple, harcèlement sexuel, tout un panel formidable. Et c'est aussi un lieu d'écoute et de conseil. Il y a encore plein d'autres trucs à dire sur le planning familial, et on reviendra dessus dans une prochaine émission. Spécial planning familial.
Texte de Christine Delphi, « Comment nous en venons à avorter nos vies sexuelles », paru dans Le Monde du 22 octobre 2000. Le gouvernement a hésité à proposer au vote une réforme pourtant minimale de la loi de 1975 permettant l'avortement. C'est que l'opposition à l'avortement, ou plutôt la légalité de l'avortement, est grande en ce pays. La tradition de l'hypocrisie s'y maintient. Tout le monde le fait, mais personne n'en parle. Comme c'était déjà le cas pour la contraception au début du siècle. C'est au nom du caractère sacré de la vie que, régulièrement, des éditorialistes demandent que l'avortement soit limité, qu'il reste un dernier recours. On craint qu'il ne soit banalisé. Banal, il ne l'est pas. Quoiqu'il soit très fréquent, comment expliquer ce paradoxe ? Jamais la pression n'a été plus forte sur les femmes et les jeunes filles. La recherche du prince charmant, autrefois menée chastement, ne s'imagine plus aujourd'hui sans moment torride. Les publicités, au cinéma, ne présentent qu'une image du bonheur, du bien-être, de la normalité. Un jeune couple en maillot de bain, en train de danser sur une plage tropicale, les yeux dans les yeux. Que vendent-elles ? Du chocolat ? Du café ? De la lessive ? De la limonade ? On ne peut plus distinguer les produits, tant les arguments de vente sont les mêmes. Beauté, jeunesse et sexualité, voilà ce qu'on nous vend. Pas n'importe quelle sexualité, cependant. la contrainte à l'hétérosexualité est plus contraignante que jamais. En 30 ans, l'âge moyen des premiers rapports a baissé de 20 ans à 18 ans. L'écart entre les filles et les garçons, qui était de 4 ans, a disparu. La révolution sexuelle est accomplie. Ces bénéfices, cependant, pour les femmes continuent d'être discutés par les féministes. Libération de tous et de toutes, ou réalisation du rêve masculin de libre accès à toutes les femmes. On parle d'éthique et de respect de la vie à des jeunes filles catastrophées par une grossesse. Et en parle-t-on aux garçons qui sont au moins autant concernés, autant responsables. Et pourquoi pas? Un enfant, ça se fait à deux, quand un couple s'en dispute la garde. Mais plus quand une jeune fille est enceinte. Pourquoi la morale commune est-elle à géométrie si variable? Sinon, parce que l'intérêt de l'homme est toujours décisif. Parce que c'est son choix qui règle non seulement sa conduite, mais celle de toute la société. Parce que la liberté des hommes continue d'être plus grande que celle des femmes, et surtout de s'exercer au détriment de celle des femmes. Il est donc normal que les sociétés qui combinent, comme la France, pression au coït et rétention sur la contraception, révolution sexuelle et inégalité des sexes, connaissent des forts taux d'avortement, et le condamnent. Tandis que les pays qui le permettent, dans des délais deux fois plus longs que les audacieuses 12 semaines proposées ici, par exemple aux Pays-Bas, 24 semaines, dans la même logique, font de l'éducation sexuelle et contraceptive et connaissent des taux d'avortement beaucoup plus bas. Prendre le problème au moment où il débouche sur une crise, la grossesse non désirée, c'est ignorer, ou peut-être vouloir ignorer, qu'une crise se prépare de longue date. 25 ans après la loi, encore 220 000 avortements par an. Le sous-entendu est que, décidément, on ne peut pas faire confiance aux femmes. On leur donne un peu de mou et hop, elles en profitent pour avorter. Comme si c'était une partie de plaisir. Ce n'est pas une partie de plaisir. Cela n'a pas à être non plus la tragédie que l'on veut que l'avortement soit, qu'on fabrique avec un parcours du combattant humiliant et traumatisant. Les adversaires de l'avortement ont réussi. Les femmes arrivent au centre d'IVG, porteuses du discours attendu. Et c'est le pire, souvent sincèrement ressenti, pleine de remords et de culpabilité. Mais de culpabilité de quoi? Ceux qui nous disent qu'il ne faut pas banaliser l'avortement, que veulent-ils dire? L'avortement est un crime ou il ne l'est pas? Certes, la vérité, souvent, n'est ni toute blanche ni toute noire. Mais elle ne peut pas être si grise qu'on nous le dit. Même avec tout le souci des nuances qu'on voudra, il faut se décider. La société française ne veut pas se décider. C'est exprès qu'elle se maintient dans sa majorité dans une attitude ambivalente et ambiguë. Ce n'est pas un vrai crime, mais c'est un acte très grave. Non, assez. Si les femmes pouvaient vraiment choisir leur sexualité, et choisir signifie non seulement connaître les conséquences de ce qu'on fait, non seulement pouvoir se prémunir, mais aussi pouvoir refuser de le faire. Mais aussi avoir le choix d'autres activités, aussi satisfaisantes sur le plan personnel et aussi valorisées socialement. Il y aurait peu ou prou d'avortement, car les activités fécondantes seraient effectuées en connaissance de cause et avec intention, et non dans l'affolement, l'ignorance et la contrainte du groupe ou du partenaire. Mais ça serait une société idéale, et nous n'en sommes pas là. Nous en sommes à sauver nos vies menacées par des injonctions contradictoires. Personne n'a le droit d'interdire ni de condamner, ni même d'émettre des réserves sur la nécessité vitale de l'avortement. Quant à sa légitimité, dans cette société idéale, l'avortement serait rare, mais aussi légal que n'importe quelle autre opération, selon le principe du droit des gens à disposer de leur corps.
Dans quel état de guerre vivons-nous? Pour nous barricader à tout âge, trois verrous et un Judas. Dans quel état de guerre vivons-nous? Pour voir derrière tout homme un violeur en puissance. La guerre existe et nous ne l'avons pas déclarée. À nous maintenant de nous défendre et d'y répondre.
Ça, c'était un court extrait d'un film qui s'appelle Debout. Désolé pour la qualité sonore un peu pourrie, mais on avait quand même envie de le diffuser. Voilà, la première de l'émission Rien à signaler se termine. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission, toujours sur le 895 de Radio Dio. Et pour finir, encore une petite surprise.
Je veux dire merde aux rapaces, merde aux experts, merde à la division.
Me gustaría decir mierda a los rapaces.
Merde au jugement.
Mierda a los expertos.
Merde au pater. Merde à l'écrasement.
À la division.
Merde à la technocratie.
Mierda a la tecnocracia.
Merde à l'industrie agroalimentaire.
Mierda a la industria agroalimentaire.
Merde aux pharmacopées.
Mierda a l'industria de la farmacología.
Merde à l'élite.
Merde au pater.
Merde au nucléaire.
Merde au jugement.
Merde à l'écrasement.
À
l'industrie de l'emprisonnement.
Merde à la technocratie.
Merde à la justice.
Merde à l'industrie agroalimentaire.
Merde au patriarcat.
Merde
au capitalisme. Merde à tous ces puissants qui dirigent le monde. Merde et je vous emmerde.
Merde à tous les poderosos qui dirigent le monde.
Merde à l'industrie de l'emprisonnement. Merde à la justice. Merde au patriarcat. Merde au capitalisme.
Je veux...
Merde à tous ces puissants qui dirigent le monde.
Être vagabonde.
Merde.
Me gustaría ser vagabunda.
Je veux être femme.
Me gustaría ser mujer.
Je veux être homme.
Me gustaría ser hombre.
Je veux ne rien faire.
Me gustaría no hacer nada.
Je veux être.
Je veux m'activer. Me gustaría activarme.
Je veux voyager à pied.
Me gustaría viajar a pie.
Je veux être érémiste.
Me gustaría vivir en Francia.
Je veux
y ganar dinero sin hacer
pleurer.
Nada. Me gustaría
me mettre en colère.
Llorar, enfadarme.
Je veux m'activer. Je
courir après du vent,
à pied.
Correr detrás del viento.
Ne pas être rentable,
no ser rentable.
Ne pas capitaliser mon savoir pour pouvoir vous le montrer.
Je veux être RMS. No capitaliser mi saber
para je veux être là,
courir après du vent,
échanger,
me gustaría compartir,
me révolter, accepter,
revoltarme,
savoir et ne pas savoir,
ne pas capitaliser mon savoir,
faire confiance et être confiante. Je veux être là.
Estar en confianza.
Je veux jouer à me faire plaisir.
Jugar,
je veux échanger.
A darme
exister.
Plaisir, existir.
Accepter.
Je
veux comprendre la technologie.
Me gustaría comprendre
ne
la
plus dominer.
Faire confiance. No dominar.
Être confiante. Je veux être expatriée.
Me gustaría jouer ser sans papier.
Et libérée.
Documentos de identidad,
ne plus me conditionner.
Je veux libre.
Comprendre la technologie.
Me gustaría ser histérica.
Je veux porter sur ma tête ce que je veux.
Me gustaría llevar sobre mi cabeza lo que me da la gana.
Je veux être expatriée. Je veux être patiente, papier, mais ne pas accepter. Libérée.
Me gustaría ser paciente.
Je veux être
justée.
Être là et puis là.
Me gustaría estar aquí
et là et que tu me vois mais que tu m'oublies.
Y que tú me veas pero que me olvides.
Je veux être patiente mais ne pas accepter. Je veux être bleu,
je veux être
blanche,
azul,
et puis là, je veux être noir,
vert,
je veux être bleu,
orange,
je veux être blanche, violette,
je veux être noir, rosa,
rouge,
violeta,
verte, rose. Merde aux jalousies, merde à ma tête de mule, merde à ce que tu vis, merde à la boîte dans laquelle tu me plaques, merde à mon look, je suis tout ça et fais pas chier.
I woke up weak today, and needing your voice, crawled into the speakers and turned up the volume. Felt so sick today, but cured by your nose.
Virginia Avenue, Laura. In summer's almost over, I walk the line at night like this strange fruit.